Agnès Verdier-Molinier, merci d'être venue jusqu'à Bordeaux pour présenter ce nouvel ouvrage, donc « Ce que doit faire le prochain président ». Je vous avais laissé il y a 2 ans, je crois, pour un livre, je dirais, qui était un peu un prolégomène de celui-ci, qui consistait à expliquer que nous allions dans le mur. Voilà. Alors je ne sais pas si on est, rentré dans le mur, si on a cogné dans le mur, ou si on n'est pas très loin du mur. En tout cas, on est entouré par des murs. Il va falloir en sortir. Hein. En tout cas, d'essayer de ne pas se cogner. Alors on a encore 2 mois avant l'élection présidentielle pour faire des projets, entendre des programmes. Alors je sais bien que la campagne est un petit peu parasitée en ce moment par des considérations qui n'ont pas grand-chose à voir avec les programmes. Voilà, mais enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, nous avons la chance ce soir avec vous, Agnès Verdier-Molinier, de revenir un peu sur les programmes. Non pas sur le programme de tel ou tel candidat à l'élection présidentielle, mais en fait c'est une adresse que vous faites, vous et votre fondation. Donc je rappelle que vous êtes la directrice de l'IFRAP, c'est une fondation indépendante, l'Institut... la fondation donc pour la recherche
sur les administrations, et les politiques publiques.
Sur les politiques publiques, voilà, merci. Donc l'IFRAP, qui fait un travail de fond, donc avec un certain nombre de personnes qualifiées. Je crois que vous êtes une quinzaine ou une vingtaine des salariés et des bénévoles, donc qui travaillaient sur toutes les problématiques liées aux politiques publiques et pour proposer donc aux candidats à l'élection présidentielle une sorte de calendrier et un programme de réforme. Alors c'est pas Ça ressemble un petit peu, ce livre, ça ressemble un petit peu à un programme clé en main, puisque vous proposez un diagnostic sur l'état pas très reluisant de nos finances publiques et de notre système public. Et puis, comme vous êtes quand même des gens constructifs, après le constat, vous voulez donc proposer des voies possibles. Alors c'est très précis, puisque vous avez vraiment pris le quinquennat qui va s'ouvrir dans l'ordre en proposant des ordonnances, des référendums, une législation, des lois. Alors, Agnès Verdier-Molinier, ma première question, c'est de vous demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire comme ça un programme clé en main pour finalement tous les candidats en place, quoi, puisqu'ils sont extrêmement divers. Hein. Ça va de la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre. Alors évidemment, tous ces candidats sont évidemment des projets extrêmement différents. Pour autant qu'ils les aient présentés, je crois que demain nous aurons le programme d'Emmanuel Macron que tout le monde attend un peu, puisqu'il est un des favoris des sondages. Programme sur lequel on n'a pas beaucoup de précisions. Voilà. Donc vous avez déjà réfléchi à des programmes qui pourraient être adoptés par tel ou tel. Alors comment c'est possible, ça ?
Alors d'abord, c'est le fruit d'un travail de longues années, hein, parce que la Fondation IFRAP a été créée, comme vous l'avez très bien rappelé dans votre papier, dans le Sud-Ouest, en 85. Donc c'est vraiment la sédimentation d'une réflexion sur la gestion des politiques publiques dans notre pays. Alors j'avais sorti il y a 2 ans « On va dans le mur », et dans toutes les rencontres que j'ai faites à travers la France, j'étais venue ici à Bordeaux, mais j'étais aussi passée à Strasbourg, à Dunkerque, à Marseille, dans toute la France. Et tout le monde me disait, écoutez, c'est très bien de faire des constats, de dire ce qui va pas, mais il faut dire ce qu'il faut faire. Voilà. Il faut la méthodologie, le calendrier de la réforme, le programmatique, en fait. Et c'était ça qui revenait partout, dans tous les territoires de France. Et une question qui était même plus prégnante qu'à Paris, finalement, dans l'ensemble de nos territoires de France. Parce que, quand on va voir des Parisiens dans des conférences, ils sont souvent très connectés à la politique. Et puis, quand on s'éloigne de Paris, on se rend compte qu'il y a plein de questions qui se posent chez les citoyens sur la gestion publique et qu'il y a une appétence énorme sur ces questions. Donc, je me suis dit, il y a une telle demande sur cette question qu'il faut absolument sortir un livre sur ce sujet. Comment on fait ? Voilà. Et se donner cette obligation de résultat pour dire, voilà, le calendrier doit être, mois après mois, tel calendrier de la réforme. Ça a été très difficile, parce que pourquoi est-ce que les candidats ne donnent pas autant de détails que cela ? C'est parce que, en fait, l'exercice est difficile et que ça m'a pris, moi, 2 ans, hein, avec aussi l'aide de mon équipe de la Fondation. Ça oblige à réfléchir à quelque chose de tout à fait global, c'est-à-dire comment on fait une réforme puis l'autre, et est-ce que à quel moment est-ce que on enchaîne telle réforme avec telle réforme, et puis est-ce que constitutionnellement ça passe, est-ce qu'il faut passer par une réforme de la Constitution pour telle ou telle mesure. Donc c'est très compliqué, voilà. Et en même temps, ça m'a permis de voir que quel que soit le prochain président, à mon avis, ces réformes-là, il devra les faire. Voilà. Quel que soit le discours que peut avoir aujourd'hui tel ou tel candidat. Pourquoi ? Parce que quand on propose, par exemple, le revenu universel à 400 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, c'est l'équivalent du budget de l'État, eh bien, c'est impossible. C'est juste une promesse électoraliste, mais qui ne pourra pas être mise en place, parce que vous ne pouvez pas dépenser l'équivalent du budget de l'État en plus de ce qu'on a déjà comme dépenses publiques, sachant qu'on a 70 milliards de déficit annuel, qu'on a déjà une dette de 2200 milliards, et que voilà, les finances publiques...
À la décharge de M. Hamon, dont vous citez la mesure phare, bon, il faut bien reconnaître qu'il n'a pas proposé de dépenser 400 milliards d'un coup. Il envisage de proposer un chemin vert.
C'est un chemin vert, mais un chemin vert, 400 milliards de dépenses supplémentaires, ce qui est tout à fait illusoire. Donc, il y a les promesses pendant la campagne, et puis il y a ce qui est faisable et ce qui est nécessaire. Parce que l'idée aussi de ce livre, c'est de dire ne soyons pas fatalistes. Ne nous disons pas la croissance ne peut pas revenir en France. On ne peut pas redresser la barre. On ne peut pas créer des emplois marchands. On ne peut pas revenir au plein emploi. Parce qu'autour de nous, si vous vous retournez vers les pays comparables, ils ont réussi à mener les réformes et ils ont réussi souvent à revenir au plein emploi. Je pense aux Allemands, mais je pense aussi aux Suédois, aux Danois, au Royaume-Uni aujourd'hui, malgré le Brexit, etc., on a quand même le plein emploi. Je pense à la Suisse et à des tas de pays qui ont mis en place des dispositifs de frein à l'endettement de leur pays, de réforme fiscale, de réforme de la dépense publique, d'évaluation de la dépense publique, et qui ont réussi, en contenant aussi l'évolution de leur modèle social vers moins de dépenses que nous, à être dans une situation économique bien meilleure que la nôtre. Donc il n'y a pas de fatalité. Il y a tous les talents en France pour réussir. Simplement, il faut avoir un petit peu de courage pour remettre finalement le système en question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire les strates, réduire le nombre de collectivités, revoir les missions de l'État. L'État ne doit pas s'occuper de tout. Il doit aussi, à un moment, s'il dit qu'il délègue la gestion des personnels techniques des lycées et des collèges, bah pourquoi pas la gestion des professeurs au niveau local ? Pourquoi pas plus d'autonomie des écoles ? Donc tous ces sujets-là sont en train de venir sur la table.
Donc, je sais bien que ce n'est pas un livre de diagnostic. Le diagnostic, vous l'avez déjà fait. Mais quand même, en trois phrases, en deux mots, le gros problème que nous avons en France... c'est quoi ? C'est une hypertrophie de l'État, c'est une mauvaise organisation de l'État, c'est un phénomène, comment dirais-je, de vous avez parlé d'empilement des strates, c'est quoi ? C'est un État qui est hors de contrôle dans son organisation et qui finalement n'arrive pas à se rationaliser, c'est ça notre problème ?
Le problème numéro un, c'est que personne dans la structure n'évalue véritablement chaque euro d'argent public. Donc il y a cette question d'efficacité et d'efficience, elle est au cœur de toute l'équilibre de la démocratie. Le rôle du Parlement, c'est d'évaluer les politiques publiques, d'évaluer ce qu'on fait avec l'argent public. Là, vous avez vu, il y a 15 jours, il y a eu le rapport de la Cour des comptes. Tous les ans, vous avez le rapport de la Cour des comptes. Tous les ans, on vous dit qu'on dépense des milliards supplémentaires, pas nécessaires, qu'il y a une organisation qui n'est pas optimale dans les ports, mais aussi dans la formation professionnelle, mais aussi... voilà. Donc on égrène tous ces problèmes. Est-ce que pour autant, il se passe quelque chose ? Non, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne à la Cour des comptes qui, finalement, a le pouvoir de sanction. La Cour des comptes, elle est à équidistance du Parlement et du gouvernement dans, finalement, le pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Elle n'est pas dans le pouvoir parlementaire. Et elle n'est pas non plus dans le pouvoir
exécutif. Alors vous remarquez à juste titre, par exemple, que dans l'article 24 de la Constitution, il y a un article qui dit que le Parlement est censé contrôler les politiques publiques, les évaluer, les contrôler.
Encore hier à l'Assemblée nationale, et quand on va à l'Assemblée
Qu'est-ce qui s'oppose à ce que le Parlement s'empare du contrôle ?
Eh bien, tout s'oppose. Pourquoi ? Parce que quand on discute avec des gens de la Cour des comptes, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps chez Calvi sur LCI, on dit « Mais finalement, ce rapport de la Cour est formidable, comme d'habitude. Alors on fait plein d'émissions, on fait plein de papiers. Mais alors qu'est-ce qui va se passer ? Bon, bah rien. Alors pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de sanction. C'est qui ? C'est les politiques. Alors on dit « Bon, bah très bien. Alors, il faudrait doter les politiques d'un peu plus de capacité d'évaluation, d'audit et d'études d'impact. Bon. » Et alors là, on dit « Ah bah oui, mais nous, en France, c'est différent. On n'arrive pas à intéresser nos politiques à la question ». En fait, notre administration ne veut surtout pas que le politique s'empare de l'évaluation. Tout a été fait pour l'empêcher. À la fin des années 90, début des années 2000, il y avait une conjonction parfaite pour que la gauche et la droite s'alignent sur le fait que le Parlement soit doté de moyens d'évaluation. Et ils ont abouti à une présentation comptable qui est celle de la LOLF, hein, la loi organique des lois de finances, mais qui n'a rien changé. C'est-à-dire qu'ils ont tous voté à l'unanimité. À l'époque, il y avait Migaud, il y avait Lambert, donc Migaud pour la gauche, hein, Migaud qui est aujourd'hui
qui est maintenant à la Cour des
premier
comptes,
président de la Cour des comptes, et Lambert à l'époque pour la droite. Et ils se sont réunis pour dire, nous, on va créer une nouvelle architecture de présentation des comptes, mais à aucun moment, ils n'ont permis au Parlement de se doter à la fois de cette capacité, comme a par exemple le Parlement britannique. Ils ont un organe d'audit qui travaille pour les parlementaires, qui fait 50 rapports par an. Quand le rapport sort, il y a une sous-commission de la Commission des finances qui convoque ceux qui sont responsables de la politique publique et qui met en place immédiatement les mesures pour changer la façon de gérer, et parfois même qui supprime des organismes. Nous, en France, vous voyez beaucoup la suppression d'organismes. Je me suis amusée à prendre le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière et regarder les propositions de suppression d'organismes. Il y avait deux propositions de suppression d'organismes, notamment le Fonds de solidarité et puis un autre, l'Institut du cheval. Ces deux-là n'ont toujours pas été supprimés. Donc même les propositions tranchées de la Cour, qui sont vraiment noir sur blanc, très claires, finalement n'aboutissent à rien de concret. Et même pire, quand la loi est votée à l'Assemblée nationale, par exemple la loi sur la pénibilité pour les retraites, on sait les difficultés énormes, considérables, qui se posent aujourd'hui aux employeurs pour essayer d'évaluer la pénibilité de chaque travail posté, etc. C'est absolument ubuesque. Est-ce que vous croyez qu'à un moment, dans l'étude d'impact, on a regardé combien ça allait coûter à nos entreprises d'aller regarder si le peintre a le pinceau qui est à 40 degrés ou pas, s'il a la tête levée et à combien de degrés, etc., etc. Ça, ça n'existerait nulle part ailleurs. C'est-à-dire, en Allemagne, vous votez des lois, mais vous avez à côté, est-ce que ça va détruire de l'emploi ? Est-ce que ça va en créer ? Si ça va en détruire, peut-être on ne va pas la voter. Et puis, si ça donne une charge administrative plus importante aux entreprises, au contraire, on va se poser la question de modifier ça.
Alors, vous, revenons à cette question du Parlement. C'est quelque chose de fondamental. Si le Parlement a le pouvoir de sanctionner des comptes publics, vous dites qu'il faudrait réformer la Constitution. Or, on a cet article 24. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de réformer la Constitution ou simplement de l'appliquer ? Vous semblez dire dans le livre qu'il faudrait quand même réformer la Constitution pour que le Parlement se dote d'une structure ad hoc qui permette cette évaluation et ce pouvoir de sanction.
Pourquoi ? Parce que
c'est un peu compliqué.
Pendant la réforme constitutionnelle de 2008, il était question justement qu'on dote le Parlement d'un organe qui aurait été différent de la Cour des comptes. Ça figurait d'ailleurs dans le programme à l'époque de l'UMP. Et en fait, la Cour des comptes et tous les grands corps de l'État, le Conseil d'État, l'Inspection générale des finances, ont fait bloc pour empêcher cette création. Pourquoi ? Parce que, là encore, le pouvoir est beaucoup aux mains de l'administration dans notre pays et très peu aux mains des représentants de la nation, qui sont nos députés. Et à ce moment-là, il y a eu tout un lobbying énorme de modification des textes, puisque moi, j'ai eu en main plusieurs versions de la réforme constitutionnelle qui ont beaucoup évolué dans le temps. Et à la fin, on n'avait plus du tout l'organe d'audit ad hoc. Et à la fin, on avait quoi ? Un petit appendice d'un million d'euros de budget qui fait 3 rapports par an. Quelque chose de totalement minable. D'ailleurs, les parlementaires qui en font partie le reconnaissent largement. J'ai eu l'occasion souvent d'en parler avec eux. Et qui n'a aucun impact sur la dépense publique. Par ailleurs, notre Parlement, malheureusement, à la fois l'Assemblée et le Sénat, vivent sur des habitudes de gestion des deniers publics qui leur sont confiés, de leur propre budget, qui sont assez opaque, il faut bien le reconnaître. Par exemple, on n'a pas du tout les grilles de rémunération des agents de l'Assemblée et du Sénat. Si vous allez sur Internet, sur les sites, vous ne verrez pas du tout combien sont payés les agents. Pourquoi ? Parce que les agents sont beaucoup plus rémunérés que les sénateurs ou les députés eux-mêmes. Vous avez une énorme difficulté, c'est que, par exemple, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, il va émarger dans des niveaux de 250 000 à 300 000 euros par an de rémunération, ce qui est très largement supérieur d'ailleurs à n'importe quel député ou sénateur. Mais ça, personne ne le dit jamais. Alors nous, quand on a travaillé sur cette question à la Fondation IFRAP, c'était en 2012, et on a dit on va faire une enquête au moment des législatives de 2012. Cette enquête, ce sera une enquête sur comment on utilise les deniers de l'Assemblée nationale. Moi, je suis allée voir tous les députés à l'époque que je connaissais, notamment ceux qui sont dans l'administration, ce qu'on appelle la questure. Et ils m'ont dit, surtout Agnès, ne fais pas ça, tu vas faire monter les extrêmes, il ne faut surtout pas s'intéresser à la façon de gérer l'argent dans notre Parlement. Et je crois que c'est une très grave erreur. Pourquoi ? Parce que finalement, en dissuadant nos parlementaires d'utiliser l'argent de leur propre budget, c'est-à-dire c'est un demi-milliard d'euros hein, pour l'Assemblée nationale, à peu près donc 500 millions d'euros, eh bien, on les éloigne aussi de leur mission d'évaluation. Et il n'y a qu'au moment où ils seront eux-mêmes très stricts sur l'utilisation des deniers qui leur sont confiés, qu'ils pourront mener cette mission d'évaluation. Et ça, tout le monde en est très conscient dans l'organisation institutionnelle. Et c'est pour ça que je propose dans le livre de réduire le nombre de parlementaires, de passer de 577 députés à 350, de passer de 348 sénateurs à 150, avec des meilleures indemnisations, hein, qui soit plus en lien avec... parce que quand vous avez un administrateur qui travaille pour vous, qui est payé 15 000 euros par mois et que vous avez une indemnité de 5 000, il y a un petit problème d'équilibre. Hein. Passer à 10 000 euros par mois l'indemnisation de nos parlementaires, mais avec justificatif de frais, s'il y a des frais. Aujourd'hui, il n'y a pas de justificatif. Donc, quelque chose de beaucoup plus encadré. Et aujourd'hui, on le voit encore avec l'actualité, toutes ces questions sont des questions absolument centrales.
Hein, alors, il n'y a pas dans le livre un chapitre sur les assistants parlementaires, par exemple, et puis il n'y a pas forcément de grand dégagement sur le Parlement, et ce dont vous venez de parler.
Mais je parle des retraites parlementaires, des frais de représentatifs, de frais de mandat, je parle de la réserve parlementaire qu'il faudrait supprimer à terme, hein, puisque c'est à peu près 90 millions d'euros qui sont distribués à l'ensemble des collectivités desquelles sont issus les parlementaires. Et là, ça pose aussi une question. C'est une pratique, même si ça passe par le ministère de l'Intérieur, même si maintenant c'est publié à la fois sur le site de l'Assemblée et du Sénat, on peut se demander quelle est la logique de cette pratique. Est-ce que c'est une pratique clientéliste ? Est-ce que ça a du sens ? Pendant plusieurs années, il y avait de la réserve parlementaire qui était donnée aux sénateurs et aux députés, mais on ne comprenait pas pourquoi les montants étaient différents de l'un à l'autre. Certains sénateurs que j'ai pu rencontrer m'ont dit qu'ils avaient fait 3 mandats sans connaître même l'existence de la réserve parlementaire au Sénat. Donc là, il y a des vraies questions. Les groupes parlementaires, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, n'avaient aucune obligation de déposer des comptes, de les faire certifier ou même de les publier. Donc, alors là, on ne parle pas de milliards d'euros, on parle de quelques millions d'euros. Mais néanmoins, c'est pour vous expliquer qu'il va falloir, et c'est pour ça que je le propose dans le livre, réorganiser toute l'organisation du travail parlementaire pour pouvoir reconcentrer l'évaluation.
Alors évidemment, là on est en train de parler du Parlement, mais c'est vrai que les niveaux d'économie qui sont considérés comme nécessaires sur le budget de l'État, c'est des dizaines de milliards d'euros. On est entre 50 et 100 milliards d'euros. Donc c'est évidemment pas uniquement
quels
sont les grands gisements, justement, les grandes réformes qui vont nous permettre d'économiser ces fameux 100 milliards, qui vont permettre de rééquilibrer le budget de l'État, commencer à rembourser la dette, remettre de l'argent là où il faut en mettre. Notamment, par exemple, vous avez fait un papier récent sur le manque de dépenses au niveau des tâches régaliennes de l'État. Oui. Je pense en particulier à la sécurité, la défense. Donc il faudrait, d'après vous, mettre 16 milliards d'un coup sur l'armée et sur la sécurité. Donc il faut évidemment les chercher ailleurs. Donc, mais on est à des niveaux d'économie nécessaires et à des niveaux de réforme qui sont très importants.
La marge est haute. Pourquoi ?
Alors quelles sont les marges là, que nous avons pour faire ce travail de réforme et de gains de marge de manœuvre dont nous avons cruellement besoin.
Dans le livre, je consacre un chapitre entier à l'idée qu'il faut baisser la dépense publique d'environ 90 milliards d'euros. Alors 90 milliards d'euros, ce n'est pas un chiffre pris au hasard. Hein. L'idée, c'est d'arriver petit à petit à retourner vers 52 puis 50% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale.
Le prélèvement, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires.
Non, c'est la dépense. Hein. Et aujourd'hui, on est à 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Si vous avez pris connaissance un peu du dernier rapport de la Cour sur la question de la situation des finances publiques, il faisait un très... un très beau graphique où il montrait qu'au début, il y a quelque temps, mais même en 2010, on était à 7 points d'écart avec les pays comparables, notamment l'Allemagne, en termes de dépenses publiques. Maintenant, on est à 10 points d'écart. On a 57% de notre richesse nationale qui est dépensée en dépenses publiques. Les Allemands en sont à 47%. Donc ils ont fait un travail considérable. Si vous regardez dans les années où ils ont réformé, notamment sous Schröder, c'est-à-dire c'était un chancelier social-démocrate, donc classé à gauche, il y a eu un travail énorme de justement sur la question de la dépense sociale avec les lois Hartz, ce DRH de Volkswagen qui a été vraiment à la manœuvre sur toutes ces questions et qui a fait un travail très très important.
Et il faut dire qu'il y a 20 ans, ils n'étaient pas mieux que nous, c'est ça.
Mais non, ils n'étaient pas mieux que nous. Mais quand ils faisaient...
Il y a 20 ans, je parle d'il y a 20 ans.
Mais quand ils faisaient les réformes, nous, on se gossait en disant « Oh là là, ils ont perdu en croissance et tout ». Mais en fait, ils étaient en train de reconstruire un système beaucoup plus cohérent, tandis que nous, on ne menait pas les réformes structurelles et qu'on attendait toujours d'être sauvés par l'extérieur, d'être sauvés par la croissance chinoise, par la croissance américaine, par la baisse des taux ces derniers temps. Quand vous regardez la baisse du coût de la dette, les efforts de baisse du déficit, soi-disant réalisés par le gouvernement actuel, 40% des efforts sont des efforts réalisés grâce à la baisse des taux d'intérêt, qui sont en réalité complètement extérieurs la question de est-ce que le gouvernement a fait des réformes structurelles ou pas. Il n'a pas mené de réformes structurelles. Donc pourquoi
alors,
où
trouver ces 90 milliards alors?
Alors 90 milliards d'euros, on les trouve. Moi, je fais la liste de... À la page 259, vous avez en annexe toutes les économies à réaliser. Et je ne vous cache pas que les économies principales, elles vont se faire sur les gros postes de dépenses. Parce que pendant des années, on nous a un peu baladés en nous disant on va faire la révision générale des politiques publiques et puis alors on va regarder comment dépense l'administration des passeports et puis on va la réorganiser. Mais ni vous ni moi ne croyons qu'avec la réorganisation de l'administration des passeports, on va faire les économies nécessaires pour baisser la dépense publique et baisser derrière la pression fiscale, parce que c'est de ça dont on parle en réalité. On baisse pas la dépense publique, c'est juste pour baisser la dépense publique. On baisse la dépense publique pour faire baisser la pression fiscale sur les ménages et surtout sur les entreprises, et permettre que notre tissu entrepreneurial, notamment dans l'ensemble des territoires de la France, se reconstitue. On a perdu plus d'un million d'emplois dans l'industrie ces dernières années. C'est catastrophique de voir les chiffres, notamment du commerce extérieur, la balance du commerce extérieur sur l'industrie. C'est 40 milliards de déficit. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Alors la baisse des dépenses publiques, c'est surtout sur le volet retraite. C'est à peu près 30 milliards à l'horizon 2022. C'est le volet aussi dépenses de personnel. Alors, c'est un sujet qui est délicat, parce qu'on a toujours pensé qu'en embauchant plus dans le secteur public, on allait réussir à faire baisser le chômage. Et puis, en fait, on fait de la croissance du PIB, qui n'a pas de la croissance du PIB marchand, mais de la croissance du PIB total. Mais finalement, à force... Ça épuise aussi la sphère privée et la création de valeur. Et le problème, c'est qu'à faire ça, petit à petit, on se retrouve dans une situation où c'est plus finançable. À la fois sur les retraites, il va falloir passer à un âge de départ plus éloigné. Nous, on propose, en tout cas, c'est ce que je dis dans le livre, 65 ans en 2028. Et encore, ce n'est pas le plus accéléré, mais ça nous permet déjà pas mal d'économies. Et l'idée aussi d'aligner les retraites publiques sur les retraites privées. Alors là, c'est le sujet numéro 1. Voilà. Pourquoi ? Parce que tous les ans, avec vos impôts, vous financez 8 milliards de déficit des retraites des agents de l'État, qui n'apparaissent nulle part, puisqu'il n'y a pas de caisse. Ils n'ont jamais voulu créer de caisse qui permette de montrer l'ampleur du déficit. Donc c'est directement l'État employeur qui augmente sa cotisation. On est à 75% de taux de cotisation de l'État employeur aujourd'hui. C'est ubuesque. Et puis tout le monde dit c'est formidable, c'est à l'équilibre. Oui, sauf que c'est nous qui payons. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir la technostructure qui refuse de reconnaître que les retraites publiques sont plus importantes que les retraites privées. Alors moi, j'ai eu beaucoup de débats là-dessus, et notamment avec la présidente du comité de suivi des retraites, ancienne présidente du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Alors il publie des tas de trucs pour vous expliquer toute la journée que c'est le même taux de remplacement, circuler, il n'y a rien à voir, et il ne faut surtout rien changer. Alors, ce qui est très amusant, c'est que nous, quand on récupère les données, on retrouve des écarts de l'ordre de 30%. Mais les données qu'on nous donne, et notamment les données de l'adresse, hein, qui sont des données officielles, sont tellement impossibles, parce qu'il y a des trous dans les carrières, etc., que pour l'instant, nous, on est encore en train de démêler entre des millions de données pour essayer de pouvoir faire les comparatifs. L'évaluation qu'on a pu faire, en partant quand même de données tout à fait publiques, c'est que c'est 4 milliards d'euros d'économies par an qu'on pourrait réaliser rien que sur les retraites de l'État. Hein. Je ne parle même pas des retraites des agents.
En alignant le privé et le public.
Ouais, ouais. Mais sans parler des agents des collectivités ou de l'hospitalier.
Donc suppression de tous les régimes spéciaux.
Absolument. Mais l'idée, de toute façon, c'est qu'on a fait un sondage.
Alors les Français, dites-vous, seraient plutôt d'accord.
Hein. À 76%. Et même les agents du public sont majoritairement pour, à 51%. Ça veut dire que c'est la réforme sur laquelle tout le monde est d'accord.
Ça, c'est des sondages auxquels on peut faire confiance.
Bien sûr, c'est un sondage opinionway sur 1000 personnes. C'est un sondage habituel. Et ça prouve que sur ces questions-là, il y a vraiment aujourd'hui, une convergence aussi des idées, même entre la gauche et la droite. C'est-à-dire, quel que soit le vote des personnes qui répondent aux dernières présidentielles, ils sont pour cette convergence.
Quelle que soit la tendance de tel ou tel...
Mais bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faut réconcilier le public et le privé, et avoir des carrières mixtes et de la mobilité. Dans un pays comme la Suède, par exemple, vous avez 3 ans, vous travaillez dans le public, ensuite vous allez dans le privé, vous revenez dans le public, vous montez votre entreprise, vous êtes indépendant. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, on est dans des carrières totalement linéaires, où il faut être soit dans le public, soit dans le privé, et ça pose le problème avec nos systèmes de retraite, avec nos 37 régimes, que ceux qui prennent des risques, ceux qui changent de carrière dans leur vie, sont pénalisés, et sont même hyper pénalisés, parce qu'ils perdent des points en fait, de retraite en changeant de régime. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais, parce que celui qui prend des risques, si vous êtes dans une pénalisation de celui qui va faire un effort de changer de carrière, de se former, de faire des choses différentes dans sa vie, c'est quand même dommage. Donc, de toute façon, ça va dans le sens aussi d'une plus grande mobilité.
Donc, vous dites que les Français sont prêts à faire des réformes, alors que par contre, ce que vous appelez la technostructure s'y oppose. Alors, est-ce que le prochain président sera plus que ses prédécesseurs capable de maîtriser cette technostructure, de lui imposer des changements. Quand on pense à cette technostructure, on pense facilement au ministère de l'économie et des finances, qui chez nous est une institution très puissante. D'ailleurs, à la fin du livre, vous considérez qu'il serait utile et même urgent de dompter Bercy, hein, d'une certaine façon.
Oui, pourquoi ? Parce que...
Alors qu'est-ce que ça signifie exactement ?
J'ai pu voir ces dernières années qu'à Bercy... il n'est pas rare d'entendre un directeur d'administration dire au ministre « Ah non, je ne vais pas chiffrer votre proposition parce que je suis contre. Hein. »
Il a la capacité de faire ça.
Mais bien sûr, mais parce que finalement...
Personne ne va lui dire
Bercy, que monsieur... Bercy est pérenne, les agents sont là, ils voient passer les ministres, eux, ils sont là d'année en année, ils savent très bien que le ministre, il ne va pas rester très très longtemps, et finalement, ils tiennent la maison. Et ils tiennent la maison d'une manière qui est toujours, finalement, fiscalo-orientée. Pourquoi ? Parce que ce qui compte pour eux, c'est que ça rentre. Et non pas qu'ils soient dans une logique d'avoir une fiscalité favorable à l'investissement, favorable à la création de richesses, à la création de valeurs, etc. Ce qui compte pour eux, c'est d'honorer les dépenses, qui sont toujours de plus en plus importantes.
Éventuellement, de rembourser la dette aussi, non ?
Oui, mais bien sûr. Mais là, l'Agence France Trésor fait un travail qui est un très bon travail et très technique. Donc, il n'y a pas que du mauvais à Bercy. Mais ce que je note dans le chapitre que j'ai consacré à Bercy, c'est que le Trésor, hein, la direction du Trésor, qui en fait est là pour gérer les impôts, hein, pour réfléchir à comment faire rentrer les impôts, en gros, elle est beaucoup plus puissante que... la direction du budget, qui, elle, est là pour poser des questions pour comment on pourrait faire baisser les dépenses. Et il y a un ministre, hein, que je ne citerai pas, qui avait réuni à un moment tous ses directeurs d'administration, qui a fait un tour de table en disant « Voilà, on est dans une situation difficile, la Commission européenne nous demande de faire des efforts, qu'est-ce que vous me proposez, vous qui êtes mes directeurs d'administration centrale ?» Eh bien, il n'y a eu que des propositions d'augmentation d'impôts et aucune proposition de baisse de dépenses. Alors, quelqu'un qui n'était pas de la maison Bercy dit « Mais attendez, peut-être on pourrait essayer de faire un tour de table maintenant sur les propositions de baisse de dépenses ». Il n'y en avait pas. Pourquoi ? Parce que la proposition de baisse de dépenses, il faut qu'elle soit réfléchie à l'avance. C'est pour ça que je dis Tout doit être réfléchi et pensé avant d'arriver à l'Élysée, avant d'arriver au gouvernement. Parce que si vous arrivez qu'ensuite vous dire bah, « Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Avec quel timing ?» etc. C'est quasiment déjà trop tard. L'état de grâce, il dure très peu. Et la baisse de la dépense, elle doit être réfléchie à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'augmenter un taux d'impôt que de faire baisser une dépense. Parce que ça veut dire qu'il faut de la réorganisation, il faut repenser les missions, il faut geler les embauches. C'est ce que je propose, de geler les embauches publiques 2 ans au niveau de l'État, les 2 premières années, totalement sur les opérateurs de l'État pendant les 5 années du quinquennat, 2 ans en fin de quinquennat sur les collectivités locales, avec 440 000 postes supprimés sur le quinquennat. C'est tout à fait possible. Ça demande d'augmenter le temps de travail des agents, parce que grâce à nos études, nos travaux sur les bilans sociaux, on a galéré pour récupérer les bilans sociaux pendant des années des collectivités locales, des grandes villes, des régions, des départements. Je peux vous dire que même dans la ville de Bordeaux, on est à 29 jours d'absence par agent et par an en moyenne. Hein, donc...
Vous avez même découvert des emplois fictifs dans certaines collectivités locales, d'ailleurs.
Oui, mais regardez le...
Des agents publics, notamment. Je crois, dans le Midi, vous avez trouvé des...
Oui, à Montpellier. À Montpellier, on est à 39 jours d'absence par agent et par an à la mairie. Et le maire qui est arrivé aux manettes aux dernières municipales explique qu'il y a... on ne sait pas combien exactement, mais plus d'une dizaine d'agents qui sont rémunérés, qui n'ont jamais...
Qui sont jamais dans
la collectivité. Donc là, il y a des pratiques qui se sont, sédimentées. Hein, le maire de Dunkerque, hein, M. Delbar, expliquait très bien. Il y a toujours eu de l'absentéisme. On a toujours travaillé moins que 35 heures. On ne voit pas comment on ferait différemment. Donc le sujet, c'est aussi les négociations avec les syndicats, les accords passés avec les syndicats avant même la mise en place des 35 heures, qui étaient en dessous des 35 heures. Quand vous prenez certaines villes, comme La Rochelle, par exemple, ils sont à 33 heures par semaine. Ils ne sont pas à 35 heures. Donc les 1607 heures qui sont les 35 heures annualisées, il y a très, très peu d'administrations qui les font en réalité. Donc ça, moi, je l'ai chiffré, hein, c'est entre 40 000 et 80 000 postes qu'on paye tous les ans, mais où il n'y a pas de travail en face. Et c'est tout à fait possible, déjà, de remonter ce temps de travail aux 35 heures. Ensuite, il faudrait le remonter au-dessus. Pourquoi ? Parce que quand on va supprimer des postes, si on ne veut pas perdre en qualité des services publics, il va falloir augmenter le temps de travail des agents. Et on est en train de payer, en fait, la mauvaise idée de la mise en place des 35 heures au début des années 2000. D'ailleurs, à l'époque, le gouvernement Jospin lui-même ne voulait pas l'appliquer dans le public, sachant que ça allait créer des dépenses publiques supplémentaires, que ça allait désorganiser les services publics. On le voit à l'hôpital, notamment. Ça a beaucoup désorganisé les services des hôpitaux français. Ça a accru l'absentéisme. Là, je parlais d'absentéisme tout à l'heure. Dans les CHU, on arrive parfois à 30 jours d'absence par agent et par an. En Aquitaine, les derniers chiffres qu'on avait, c'était plutôt 34 jours d'absence par agent et par an. Donc c'est pas négligeable. Dans la ville d'Amiens, on arrivait à 49 jours d'absence par agent titulaire et par an. Donc ça veut dire que plus vous êtes aussi protégé par un statut, plus l'absentéisme est élevé. Donc quand on peut faire le ratio, le distinguo plutôt entre les titulaires et les contractuels, on a vraiment des écarts qui sont considérables, parce qu'à Amiens, par exemple, c'est 49 jours pour les titulaires et c'est 17 jours pour les contractuels. Donc vous voyez, l'écart est très important. Donc il y a des poches de productivité, et c'est un gros mot quasiment de dire ça pour nos services publics, qui ne sont pas du tout utilisés. Et en fait, la compétitivité de nos entreprises, et je vais venir à ce sujet-là parce que c'est le pendant, la compétitivité de nos entreprises n'est que le reflet de la compétitivité de la sphère publique. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la compétitivité de nos entreprises, c'est certes la question du code du travail, des normes, etc. Donc, bien sûr, il faut réformer tout ça. Mais c'est beaucoup la question fiscale. Et quand on compare, et nous on l'a fait régulièrement ces dernières années, à la fois au niveau microéconomique et au niveau macroéconomique, on voit que nos entreprises payent environ, par rapport aux entreprises allemandes, 130 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Et on ne peut pas, avec un boulet comme ça, être dans la bataille qu'on a, la bataille commerciale, qui est une bataille aussi noble, qui n'est pas une bataille... mais qui est quand même très importante pour nos entreprises, eh bien, on part avec un handicap qui est considérable.
Avant de vous parler des entreprises, c'est très important, juste un mot sur les programmes des candidats. Parce que, est-ce que vous avez détecté, dans les programmes que l'on connaît, parce qu'il y a ceux qu'on ne connaît pas encore très bien, mais ceux que l'on connaît, est-ce que vous avez remarqué que les candidats reprenaient à leur compte certains constats et certaines propositions, avec des propositions courageuses concernant, ces gisements d'économie donc, qu'on venait de citer, et ceux que vous n'avez pas cités d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres. Est-ce que les candidats, d'après vous, s'engagent sérieusement dans cette baisse des dépenses et dans des projets qui vraiment veulent toucher au cœur du problème, autrement que de façon cosmétique, comme on a pu le faire depuis 15-20 ans.
Dans le cadre de la primaire de la droite, ça a été très intéressant parce qu'on a vu que tous les candidats avaient intégré l'idée qu'il fallait baisser les dépenses publiques, baisser la pression fiscale, réorganiser, fusionner les aides sociales en une allocation sociale unique, etc.
Donc nous, comme ça s'était fait en Angleterre, d'ailleurs.
Oui, à la Fondation IFRAP, on a été beaucoup, beaucoup consultés, sollicités par les équipes de campagne. On les a tous vus, on a donné nos travaux, on a fait des notes, et on a pu vraiment participer à ce débat-là. Après, dans la primaire de la gauche, il y a eu aussi beaucoup de débats très intéressants sur notamment la question d'ouvrir les embauches dans la haute administration à des profils du privé, de réformer le statut, d'obliger ceux qui sont rentrés en politique à démissionner du statut public. Ça, c'était notamment Manuel Valls qui proposait ça, d'augmenter les dépenses sur le régalien et de le baisser ailleurs. Donc, il y a une gauche un peu de réformiste, hein, mais qui n'a pas été celle qui a gagné la primaire de la gauche, malheureusement, qui est une gauche un peu de gouvernement, mais on voit que du côté du Parti socialiste, ceux qui ont voté à la primaire n'ont pas choisi finalement véritablement un candidat qui représente une gauche de gouvernement et qui ait une vocation de réforme social-démocrate comme on l'a vu dans d'autres pays. Malheureusement, François Hollande avait tout pour faire un travail de social-démocrate, mais il s'est réveillé trop tard dans le quinquennat avec un mauvais diagnostic de départ, puisqu'il pensait qu'on pouvait énormément augmenter la pression fiscale. Et tout d'un coup, il s'est aperçu en 2013 qu'on était en plein ras-le-bol fiscal, que c'était même quasi insurrectionnel sur certains sujets, avec les bonnets rouges, avec l'éco-taxe, etc., alors que c'était même pas lui qui l'avait décidé, hein, puisque c'était la droite qui l'avait voté à l'époque. Et on voit qu'il a rétropédalé avec le CICE et le pacte de responsabilité. Mais c'était pas assez important, et c'était trop tard. Voilà. Et en fait, le CICE et le pacte de responsabilité vont porter leurs fruits vraisemblablement après qu'ils soient partis. Hein. Et puis même, ils ont peut-être déjà un petit peu porté leurs fruits, mais la confiance a été tellement cassée avec les investisseurs, avec les entrepreneurs, etc. Beaucoup sont partis. L'hémorragie est toujours là. Hein. Beaucoup, beaucoup de ceux qui, en fait, sont les créateurs de valeur s'en vont. Et ça, c'est dramatique pour la France. Et beaucoup, finalement, n'ont fait que sauver les meubles. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire de l'emploi, on a stabilisé. Donc c'est déjà ça. Hein. Mais l'emploi marchand, en France, il stagne. Hein. On est autour de 16 millions d'emplois marchands et on n'arrive pas à augmenter. Alors que la population française augmente. Hein, on est passé de 61 millions au début des années... oui, c'est ça, 61 millions au début des années 2000 à 67 millions aujourd'hui. Et ben, l'emploi marchand, il était à 16 millions. Il est toujours à 16 millions. Voilà. Donc on stagne totalement de ce
donc
côté-là.
Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des chômeurs et on a fait des agents des collectivités locales ?
On a embauché dans le public, on a embauché dans l'économie sociale et solidaire, etc. Donc ça voilà. Mais du côté de l'économie productive de valeur ajoutée, eh bien, on n'a pas embauché.
Alors,
du côté de Benoît Hamon, je ne vous cacherai pas qu'il a une vision au niveau de la dépense publique qui est clairement aux antipodes de celle que je propose, hein, même si sur certains sujets, il peut nous rejoindre, par exemple sur l'évaluation des politiques publiques par le Parlement, il est assez cohérent sur ces questions. Du côté d'Emmanuel Macron, on a vraiment un programme qui ressemble à celui qu'a fait Hollande à partir de 2013, puisqu'il propose 20 milliards de baisses d'impôts, et en gros, en net, on est sur... 40 milliards de baisses réelles de dépenses publiques, même s'il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartouches, et même si, en réalité, il ne nous dit rien sur les dépenses supplémentaires qu'il va faire, ce qui n'est pas tout à fait honnête, parce qu'on voit mal comment il pourrait ne pas dépenser plus dans le pénitentiaire, alors qu'on est à 117% d'occupation des prisons. On voit mal comment il ne dépensera pas plus pour les opérations extérieures de nos militaires, puisqu'on voit que là-dessus, on est aussi au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, dans la défense, dans la sécurité, dans la police, il va falloir dépenser plus. Et ça, il faut le budgéter, parce que sinon, ce n'est pas cohérent. Donc, Macron nous fait un programme qui est un peu entre deux, et Fillon nous fait un programme qui est en gros à peu près aligné avec ce qu'il faut faire, même si c'est un peu en dessous, puisque il y a seulement en réalité une cinquantaine, oui, enfin 70 milliards de baisse de dépenses. Même si tous les jours qui passent, on voit qu'il annonce plutôt des augmentations de dépenses que des baisses, hein, sur la question de rembourser l'optique, le dentaire, les audioprothèses, sur la question de revaloriser les petites retraites, on est plutôt sur des dépenses supplémentaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 72 de baisse réelle de dépenses publiques. On va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Et sur la baisse des impôts, bah, il est un peu en dessous de ce qu'il faut faire. Parce que nous, on dit qu'il faut 87 milliards de baisse d'impôts à l'horizon 2024. Et François Fillon nous dit, en gros, il fait 40 milliards. 40 milliards, ça ne suffira pas pour, en 2022, être véritablement au plein emploi. Là, on a modélisé son programme tel qu'il est aujourd'hui. On est toujours à 8,7% de chômage en 2022. Hein. Donc pour arriver à véritablement baisser le chômage autour de 7%, qui est à peu près l'objectif de tous les candidats, il faut mettre la barre beaucoup plus haut sur la question de la baisse des prélèvements obligatoires.
Et donc on n'est pas très bien parti là.
Mais non, mais c'est intéressant parce que, si vous voulez, on peut aussi...
Bon, je dis on n'est pas très bien parti compte tenu de la situation politique. Mais bon, je remarque d'ailleurs que vous n'avez parlé ni de Mélenchon ni de Marine Le Pen.
Alors, bah, si on peut en parler parce que Mélenchon, lui, nous propose d'arriver à 49% de taux de prélèvements obligatoires, ce qui serait une catastrophe absolue, hein, puisqu'aujourd'hui on est à 44,5%. Il imagine que il nous fait 190 milliards d'impôts supplémentaires. Hein. On est déjà à 1000 milliards et il nous fait 190 milliards de plus. Là, c'est.
Donc pour lui, l'intendant suivra, quoi. Hein.
Mais oui, non, mais et puis des dépenses d'investissement avec 100 milliards de plus et des dépenses publiques nouvelles dans le dur. Hein, c'est pas de l'investissement, c'est 173 milliards de plus. Donc là, on est parti dans un truc qui est. Complètement...
Délirant.
Non, mais là aussi, on va le modéliser, parce que l'avantage des travaux que nous menons à la Fondation IFRAP, c'est qu'on va faire passer toutes ces mesures dans le modèle qui recrée, en fait, l'économie française. On va les appliquer, et puis on va voir à combien de PIB on va être à la fin du quinquennat, combien de chômage, combien de dettes, combien de déficits. Et ça permet de challenger énormément les candidats. Vous voyez, vous parliez du programme de François Fillon tout à l'heure, des Républicains. Il avait proposé au départ 50 milliards de baisse d'impôts dès 2017. Nous, on a dit que ça dégrade trop le solde des finances publiques parce qu'on risque une attaque des marchés si on a des taux qui remontent. Après, ça se compte très rapidement en milliards de charges de la dette supplémentaires qu'on ne pourra pas financer. Donc il vaut mieux faire une gradation dans la baisse des impôts, mais avoir une ambition plus haute à la fin du quinquennat. Donc là, on est en train de remodéliser des variantes du programme pour voir comment ça se comporte et comment on fait pour avoir un meilleur résultat à la fois sur le déficit, sur la dette, mais aussi sur le chômage.
Parce que le programme que vous proposez, c'est vous parlez du prochain quinquennat, mais en fait, vous réfléchissez sur deux, voire trois quinquennats.
Sur deux, parce que pourquoi ?
Sur deux
parce
quinquennats.
Que, cinq ans, c'est très rapide. Il faut bien se dire ça. Et ceux qui vous disent qu'en 2022, ils reviennent au plein emploi, même avec le programme que moi, j'ai rédigé dans ce livre et tout le travail qu'on a fait avec mon équipe de la Fondation, on arrive à 8% de chômage à l'horizon 2022. Et on arrive à 7 ou 5,5 à l'horizon 2025. Hein, vous voyez, c'est sûr qu'on est sur la bonne pente et que ça améliore les choses, mais il ne faut pas dire qu'on va claquer des doigts et le tissu entrepreneurial va se rétablir tout d'un coup. C'est quelque chose qu'il faut. Il faut recréer la confiance. Il faut redire aux gens, venez investir en France. Il faut faire revenir tous ceux qui sont partis, les 200 ou 300 milliards d'euros qui ont quitté l'économie française avec ceux qui sont aujourd'hui en Belgique, ceux qui sont au Luxembourg, ceux qui sont au Royaume-Uni et qui, pour l'instant, attendent de voir et se disent, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en France et est-ce qu'on va revenir un jour? Donc tout cela, il faut arriver à les reconnecter en fait à notre économie. Il y a tous les investisseurs étrangers qui peuvent se poser la question, est-ce que je développe des entreprises en France ou pas? Et aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de dirigeants de boîtes internationales, de très belles boîtes américaines ou autres, qui disent, pour l'instant, on ne fait rien, on n'embauche plus. Et même des entreprises françaises du CAC qui embauchent uniquement dans les pays voisins. Donc ça, quand vous avez ces échanges-là avec des grands dirigeants d'entreprises, vous vous dites... C'est du gâchis. Parce qu'on a tout en France pour réussir.
De ce point de vue, d'ailleurs, le Brexit peut être éventuellement une opportunité.
Une opportunité, mais ça demande aussi une réflexion fiscale. Parce que si vous êtes dans une fiscalité du capital telle que la nôtre, c'est-à-dire que vous êtes à 10 points de PIB de fiscalité du capital et 40 milliards de plus que les Allemands, vous êtes dans une fiscalité du capital qui est confiscatoire. Voilà. C'est même aujourd'hui, l'OFCE reconnaît qu'on arrive dans des taux de fiscalité sur les revenus du capital qui sont absolument délirants. Donc ça demande la suppression de l'ISF, suppression immédiate de l'ISF, dès le mois de juillet 2017. Pourquoi ? Parce que finalement, l'ISF, ce qui est terrible avec cet impôt, c'est que par exemple, vous êtes dans une grosse PME familiale, vous avez... Un des actionnaires qui est non dirigeant, il va payer tous les ans un ISF qui est parfois supérieur à son revenu. On va être obligé de lui verser des dividendes plus importants pour pouvoir faire en sorte qu'il paye son ISF. Donc on appauvrit l'entreprise pour pouvoir payer l'impôt. Et à la fin, ce non-dirigeant, il n'en peut plus. Il fait quoi ? Il vend. Et quand vous allez parler de ça, notamment à Fleur Pellerin, quand elle était ministre des PME, on nous dit « Oui, mais bon, on ne peut pas faire de cadeaux, on ne peut pas supprimer l'ISF à des héritiers. » Sauf que si on ne veut pas de capitalisme familial, si on ne veut pas de capitalisme financier, qu'est-ce qu'on veut ? Il y a bien un moment où pour monter des emplois, pour embaucher des gens, je suis désolée, il faut un minimum de capital, sinon c'est pas possible. La SARL à 1 euro, il n'y a que les ministres et les énarques qui croient que ça vous permet d'embaucher 10 personnes. Vous faites une SARL à 1 euro, vous n'avez pas embauché 10 personnes demain, c'est pas possible. Donc ça, c'est fondamental à faire comprendre à la technostructure de Bercy, et c'est pour ça qu'il faut arriver à reprendre le lead sur cette administration et faire en sorte que toute la fiscalité du capital soit pensée et orientée pour que l'épargne des Français aille vers l'économie productive, aille en capital de nos start-up, de nos PME, de nos TPE, et voilà. Et aujourd'hui, par exemple, la fiscalité des plus-values, on se souvient de l'affaire des pigeons, de l'idée d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail, ça a été absolument délétère. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Donc tous les candidats, Emmanuel Macron, François Fillon, reviennent sur l'idée qu'il va falloir revenir à une imposition forfaitaire autour de 30% maximum. Mais il est grand temps, parce que même la droite, en fin de quinquennat Sarkozy, nous expliquait qu'il fallait aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Donc on revient de loin. Mais moi, ce que je propose, c'est d'aller encore plus loin. Si vous voulez donner des indicateurs forts pour dire « ça y est, on a compris comment on peut redresser la barre et créer de la valeur en France et créer des emplois », il faut aussi dire, par exemple, « il n'y a plus d'imposition des plus-values de cession ». Voilà, vous montez votre boîte, vous réussissez, vous n'êtes pas taxé et vous réinjectez dans l'économie comme vous voulez, et on vous fait confiance. Parce que le problème aussi, c'est que nos administrations sont toujours dans une vision de défiance par rapport à ceux qui créent, ceux qui investissent, ceux qui embauchent, etc. Au lieu d'être dans une dimension de conseil et de confiance. Et on le voit avec notre administration fiscale, elle est très peu dans le conseil. Quand vous demandez ce qu'il faut faire sur un impôt, etc., on vous dit allez voir le bulletin officiel des impôts. Il n'y a pas ce lien de conseil et de relation de confiance qu'il faut absolument instaurer.
Je reviens un instant sur le programme que vous proposez aux candidats. C'est pas ce programme, c'est cette feuille de route, on peut appeler ça comme ça. C'est une feuille de route cadencée, mois par mois, presque semaine par semaine, sur tout un quinquennat. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous vous imaginez que le prochain ou la prochaine présidente va mener son quinquennat avec votre livre sous les yeux en disant « voilà, je suis en juillet 2017, il faut que je fasse ça ». En juillet 2018, il faut que je sois déjà rendu là, parce qu'après, en 2019, il va falloir que je fasse ça. Vous y croyez à ce séquencement? Parce que c'est implacable. Il y a des tableaux, il y a des... Les lois sont alignées comme à la parade. Est-ce qu'on va réussir à marcher comme ça? Voilà. On connaît notre pays, quand on connaît la politique, les grèves, les Français, les protestations, les voilà.
Ah oui, je ne vous ai pas parlé des syndicats encore.
Voilà. Et puis, dernière chose, comme l'heure tourne, je voudrais vous qui êtes ici, donniez quelques... Il est 18h53. Peut-être vous prenez 3-4 minutes, et puis après, on donne la parole à la salle.
Alors, oui, moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, quel que soit le prochain gouvernement, il aura à gérer des difficultés, notamment la remontée des taux vraisemblables, parce qu'on s'y dirige, là. Vous avez vu l'écart de taux avec l'Allemagne qui a énormément augmenté ces derniers temps. quoi que fasse la BCE, la Fed, qui, donc la Banque fédérale américaine, qui remonte ses taux, on ne va pas pouvoir rester un îlot de taux hyper bas alors qu'il y a des taux plus rentables ailleurs, parce qu'on risque d'avoir les capitaux qui partent d'Europe pour aller aux États-Unis. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre. On a aussi les retraites par capitalisation en Allemagne qui, à un moment, les retraités vont dire « Attends, les taux à 0, je ne sais pas combien, c'est pas terrible pour le rendement du placement de la retraite. » Donc à terme, de toute façon, on va se retrouver face à des réformes structurelles absolument considérable à mener. Et ces réformes structurelles, c'est celles que je décris dans ce livre. Donc c'est comme quand François Hollande vous a dit on va faire la taxe à 75%, etc. Et puis finalement, à la fin, il a dit il faut absolument baisser les impôts des entreprises. Donc c'est le principe de réalité. La réalité rattrapera le gouvernement, quel qu'il soit. Et puis de toute façon, on a bien compris que si, même si c'était Emmanuel Macron qui était président de la République, quelle sera la majorité ? Ce sera une majorité qui sera... vraisemblablement assez diverses, avec peut-être une majorité de droite, avec donc une cohabitation en réalité, avec un gouvernement dont le Premier ministre serait, on ne sait pas qui, mais peut-être un Premier ministre de droite, ou alors un gouvernement d'alliance nationale qui serait à la fois droite et gauche. Et qui va se retrouver dans ce gouvernement ? En fait, des profils de réformateurs. Donc... quoi qu'il arrive, moi, je pense que cette feuille de route... Alors ce sera peut-être pas le mois et à la semaine exactement ce que j'ai décrit, mais c'est ça qui va se passer. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, parce qu'il n'y a pas 10 000 de façons de réformer les retraites et d'aligner les systèmes. Il n'y a pas 10 000 façons de réformer l'assurance chômage. Il n'y a pas 10 000 façons de réformer l'assurance maladie si on veut dépenser moins en frais de gestion. Eh bien, à un moment, il faut créer de la concurrence dans le système et du choix pour sortir du système monolithique de la CNAM et arriver à faire baisser les coûts de gestion qui aujourd'hui sont exorbitants à 14 milliards d'euros. Il n'y a pas 10 000 façons de réunir les aides sociales en une seule aide et de les plafonner et de les rendre imposables. Voilà. Donc tout ça, pour moi, c'est...
Et l'alternative, c'est de devenir un pays de deuxième zone ou d'être...
Alors, c'est ce que je dis dans l'introduction et dans la conclusion. C'est vraiment la conclusion. Soit on choisit le déclassement, soit on choisit de redresser la barre et on choisit l'optimisme parce que finalement on choisit de dire ben voilà, il y a plein de talents, notre pays est formidable, les Français sont formidables, ils ont plein d'idées, ils ont envie d'entreprendre, mais ils ont envie de le faire dans un cadre qui les soutient, qui leur dit vas-y, on est avec toi, crée des emplois, et puis si ça marche pas, tu rebondiras, etc. etc. Et pas on va mettre plein de normes, plein de bâtons dans les roues, plein de taxes supplémentaires, les taxes sur la production par exemple, qui n'existent nulle part ailleurs. Vous ouvrez votre entreprise, vous avez déjà une cascade de taxes fiscales beaucoup plus importante qu'ailleurs, qui vous tombe dessus. C'est 61 milliards d'euros par an de recettes. C'est deux fois plus que la recette de l'impôt sur les sociétés, les taxes sur la production. Ça finance quoi ? Les collectivités locales. Si vous regardez l'écart avec les autres pays, les Allemands, ils en ont quasiment pas. Les Anglais aussi. Donc ça veut dire que nous, on se crée des difficultés supplémentaires chaque fois qu'on entreprend. Ben non, ça, ces taxes-là, il faut les mettre au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, juste pour finir sur la question syndicale, parce que je sais que ça va faire partie des questions peut-être, nos syndicats devront être réformés, c'est une des priorités. Dès septembre 2017, je propose un référendum pour poser la question aux Français, est-ce que vous êtes pour un financement syndical par les adhérents ? Parce qu'aujourd'hui, avec le système du paritarisme, de la cogestion entre le patronat et les syndicats de salariés, de tous nos organismes sociaux, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocation familiale, du 1% logement, de Pôle emploi, de l'assurance chômage, de l'UNEDIC, etc., etc., sont cogérés par nos syndicats qui aujourd'hui, en fait, ont complètement lâché l'idée de réformer en profondeur le système, de faire de la réforme structurelle. On le voit encore sur la négociation chômage en ce moment. On va faire quoi ? On va encore taxer les contrats courts, alors que même dans le secteur public, ils ne veulent pas de cette taxation et ils n'en ont pas. C'est eux qui emploient le plus de contrats courts dans le secteur public et eux, ils ne taxent pas. Et ensuite, ils vont dire il faut taxer les employeurs privés qui emploient des contrats courts. Donc, on a une véritable, devant nous, réforme de ce paritarisme qui est très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'il gère la moitié de nos dépenses publiques. C'est 600 milliards de dépenses par an qui sont gérées par les partenaires sociaux.
Donc l'assurance chômage, l'UNEDIC.
Les retraites complémentaires, l'UNEDIC. Alors avec plus ou moins de gradation dans le pouvoir qu'ils ont dans le système, mais même s'ils n'ont pas de pouvoir, l'immobilisme des 200 000 mandataires, ces mandats paritaires, ils représentent la CGPME, le MEDEF, l'UPA, FO, la CGT, dans les conseils d'administration de tous ces organismes, eh bien, ça fige complètement l'organisation sociale de la France et ça fige complètement aussi la capacité de faire baisser ou de faire diminuer l'augmentation de la dépense sociale. On est à 34% de dépenses de prestations sociales, donc c'est la dépense la plus importante de tous les pays. Donc là-dessus, pour moi, je dis qu'il faut absolument dissocier le financement de nos syndicats de ce paritarisme.
Je voudrais vous remercier à tous et remercier d'être venus.
Merci, merci à tous.
Donc, ce que doit faire le prochain président, donc chez Albin Michel.